Merci d'abord de bien vouloir m'accueillir ici, dans cette bibliothèque que je connais déjà, puisque je suis venue au moment de la très belle exposition que vous aviez faite. Et ça m'avait beaucoup réjoui, puis j'en avais beaucoup entendu parler par José et par Nicole. Merci aussi de bien vouloir sortir un soir d'hiver quand il fait froid. Et j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Comme disait José, c'est une découverte d'une certaine manière. Ça paraît très présomptueux de dire ça, bien sûr, parce que le refuge huguenot, c'est pas une découverte, tout le monde le connaît, cette année en particulier, mais même auparavant. Ce qui est une découverte, ici en France, ce sont ces sources francfortoises sur lesquelles je travaille depuis des années, et que, à ma connaissance, deux personnes seulement en France connaissaient, sans les avoir d'ailleurs jamais vues, en en ayant entendu parler et les citant par ouï-dire. Je suis moi-même tombée dessus, c'est le cas de le dire, tout à fait par hasard. Je travaillais sur une autre question, et il fallait que j'aille à Francfort-sur-le-Main. Et puis, comme toujours, quand on est dans un centre d'archives et qu'on a trouvé ce qu'on cherchait ou qu'on ne l'a pas trouvé, on regarde le catalogue, on tourne les pages pour voir ce qu'il y a, par hasard, surtout quand on est à l'étranger et qu'on s'y rend assez rarement. Et par le plus grand des hasards, je suis tombée sur une mention, registre, pour les pauvres réfugiés du royaume et des vallées. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai demandé qu'on m'apporte ces registres, alors que je ne travaillais pas du tout sur cette question-là. On m'a apporté, j'en avais demandé trois, pour commencer, pour voir, on m'a apporté trois énormes registres, grands in octavo, bien épais, contenant des listes de noms, et j'ai feuilleté, et puis j'ai été vraiment emportée par ce que je lisais. Je vous ai apporté des photocopies, vous pourrez juger des visus. Et puis je me demandais bien que faire avec ça. J'étais certaine qu'il fallait en faire quelque chose, mais je ne voyais pas du tout comment. Je suis rentrée à Paris, j'ai raconté à quelques personnes ce que j'avais trouvé. On m'a dit, c'est intéressant, il faudrait avoir des photocopies. Alors je suis retournée à Francfort, j'ai fait quelques photocopies, je suis revenue, toujours aussi embarrassée et toujours aussi intéressée. Et une de mes amies, qui travaille à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, me dit un jour, il faut utiliser l'informatique. Alors je dis, très bien, mais je ne connais rien à l'informatique, je ne fais partie de rien, enfin, je suis complètement seule. Et c'est là où, par une chance extraordinaire, j'ai été accueillie d'une façon incomparable par la section informatique de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, dont vous avez fait deux éminentes représentantes, qui m'ont écoutée d'abord, qui ont trouvé que ça méritait intérêt, et qui ont dit, eh bien, on va vous aider, et qui m'ont tout appris, et grâce auxquelles ce travail a vu le jour. Il s'est développé depuis, mais il n'aurait jamais pu se développer, il n'aurait même jamais existé si au départ il n'y avait pas eu la section informatique de l'IRHT. Je saute un peu, mais vous allez voir que je vais ramasser après mes deux parties. C'était une introduction pour dire un peu la façon dont j'avais découvert ça. Le refuge, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment une question que je me suis posée. Je connaissais des petites choses dessus comme tout le monde, mais pas plus. Il fallait donc approfondir davantage et essayer de comprendre ce que c'était. Le refuge dont il est question ici, et qui est celui de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, n'est pas une nouveauté dans le monde européen. En effet, il a été précédé au XVIe siècle par ce qu'on a coutume d'appeler le premier refuge, au moment des premières persécutions contre les réformés en France, au moment des guerres de religion et surtout au moment de la Saint-Barthélemy. Nombreux sont ceux qui vont quitter le royaume et qui vont partir vers des terres plus clémentes parce que on y pratique le même culte, c'est la même confession qui règne. Ils savent qu'ils seront accueillis et ils vont fonder des églises dans ces différents pays. Il n'y a pas que des Français d'ailleurs, il y a énormément de Wallons, c'est-à-dire des habitants de la Belgique actuelle, du sud des Pays-Bas espagnols, région où la réforme s'était très rapidement et très solidement implantée, région aussi où la réforme a été éradiquée totalement très vite. Ce sont les fameuses persécutions conduites par le sinistre duc d'Albe. Et c'est à peu près contemporain des persécutions en France. Donc, nombreux parmi ces réformés partent vers l'Angleterre, vers les Allemagnes, on ne peut pas en effet parler d'Allemagne, vers ce qui sera plus tard la République des Provinces-Unies, beaucoup moins vers des terres plus lointaines. Ils fondent des églises, dont certaines vont subsister, subsistent encore d'ailleurs, dont d'autres n'auront qu'une existence éphémère. Mais même quand cette existence est relativement éphémère, elle dure assez longtemps pour qu'il soit connu au Royaume de France qu'il existe autre part des églises formées de coreligionnaires venant du royaume, parlant la même langue et ayant gardé les mêmes habitudes. Si bien que pendant tout le XVIIe siècle, les liens ne vont pas être rompus. Et on aura un mouvement, restreint d'ailleurs, mais tout de même un mouvement continu de départ du royaume vers ces églises. Il ne faut pas exagérer, ça ne sera pas la foule, n'est-ce pas? Mais il y aura tout de même un mouvement continu. Il y aura aussi un mouvement dans l'autre sens. Pas tellement de gens qui reviennent, mais d'échanges culturels, commerciaux, familiaux. Si bien que quand la situation se durcit de nouveau en France pour les réformés, à partir essentiellement de 1657 et de ce qu'on appelle l'application de l'édit de Nantes à la rigueur, c'est-à-dire qu'on reprend les clauses de l'édit de Nantes et on les applique au pied de la lettre, en supprimant donc tout ce qui, peu à peu, avait existé et avait subsisté. À ce moment-là, un certain nombre de protestants français, plus lucides peut-être que les autres, plus pessimistes peut-être, vont décider qu'il n'y a plus d'avenir pour eux dans ce royaume et vont partir. Et ils vont partir naturellement vers ces églises qui existaient déjà, avec lesquelles ils avaient entretenu des relations. Mais encore une fois, même s'ils sont plus nombreux, ils ne sont pas encore très nombreux. Car jusqu'au dernier moment, les réformés français ont pensé que la situation ne deviendrait pas la plus dramatique. Il y a pourtant eu toutes les ordonnances restrictives, tous les arrêtés, tout ce qu'on peut imaginer qui, peu à peu, a fait que leur vie s'est rétrécie comme une peau de chagrin. Leur vie professionnelle, leur vie culturelle, et quelquefois même leur vie tout court. Et malgré tout, la grande majorité d'entre eux ont pensé que le roi ne franchirait pas le pas décisif. Pourtant, vous savez bien qu'il l'a franchi, et que l'édit de révocation, l'édit de Fontainebleau, ne leur laisse pas beaucoup de choix. Ils ne peuvent que se convertir au catholicisme. C'est tout. Car la clause qui indique qu'ils peuvent continuer à pratiquer un culte familial, il n'y a plus de temple, etc., mais qu'ils peuvent continuer à être réformés et qu'on ne les persécutera pas pour autant, c'est une clause nulle et non avenue. Ils n'ont pas le droit d'émigrer, ce qui est la plus grande des injustices. Qu'on ait révoqué cet édit de Nantes, au fond, sur le plan politique et dans l'esprit du temps, c'était relativement peu étonnant. Mais ce qui est l'injustice la plus totale, c'est qu'on leur refuse le droit d'émigrer, ce qui n'existe pas autre part. Si vous prenez, par exemple, les États allemands, ce Saint-Empire romain germanique est une mosaïque, et aussi, à tout point de vue, mais aussi une mosaïque au point de vue religieux, et qui applique la loi tel prince, telle religion. Si le prince est luthérien, les sujets doivent être luthériens ou catholiques, puisque l'empereur est catholique. Si le prince est réformé, ils doivent être réformés, mais pas luthériens, etc. Que se passe-t-il? S'ils estiment qu'ils ne peuvent plus vivre, ils vendent leurs biens et ils vont un peu plus loin. Quelquefois même, c'est beaucoup plus simple. Mais ça, c'est dû à la configuration politique de l'Allemagne. On peut habiter une principauté, faire 3 kilomètres et être dans une autre, de confession différente. On peut donc habiter tranquillement, par exemple, une principauté luthérienne, tout en étant réformée, et aller au culte 2 fois par semaine, dans l'autre principauté, en franchissant une frontière plus ou moins fictive. Évidemment, ceci est impossible au Royaume de France. Donc, les Français n'ont pas le droit d'émigrer. Si bien que tous ceux qui vont décider de partir le font au péril de leur vie. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait bien présent à l'esprit toujours. C'est au péril de leur vie qu'ils partent. Les seuls, j'ai oublié de l'indiquer, les seuls qui, eux, n'ont pas le choix dans l'autre sens et qui sont obligés de partir, ce sont les pasteurs. L'édit leur donne 15 jours à partir de la proclamation pour quitter le royaume. Sauf bien sûr s'ils se sont convertis. Sinon, ils ont 15 jours pour quitter le royaume. Si au bout de 15 jours, ils ne sont pas partis et s'ils sont pris, ils sont condamnés aux galères ou même à pire. Donc, une situation particulièrement dramatique de quel côté qu'on se trouve. Bien sûr, beaucoup déjà ont abjuré. Soit parce qu'ils ont vraiment subi la persécution, soit parce que, et pour la plupart c'est ainsi, ils ont eu peur de la persécution, et on se met à leur place. Quand on se rappelle ce qu'on raconte sur les dragonnades, et quand on dit « les dragons sont à 5 lieues, les dragons sont à 3 lieues, les dragons arrivent », que fait la communauté? Elle va en bloc abjurer. Mais, là aussi, il y a abjuration et abjuration. Bien sûr, une abjuration de ce genre est purement formelle. Mais même dans ce formalisme, il y a des nuances. Il y a ceux qui vont aller individuellement signer. Il y a ceux qui nomment un représentant qui signera en leur nom. Quitte à dire après, moi je ne suis pas au courant, je ne savais pas. D'ailleurs, je ne sais pas écrire. Et il y a tous ceux qui arrivent et qui disent, moi je veux bien, mais je ne sais pas écrire, je ne peux pas signer mon nom. Alors qu'on sait très bien, parce qu'ils sont notaires, maîtres d'école, tabellions de toutes sortes ou consuls, qu'ils écrivent fort bien et qu'on en a la preuve. Mais ils se défendent encore comme ceci, le moins de traces possible, et puis parce que ils agissent ainsi, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Tout le monde ne peut pas assumer les galères, la prison et la torture. Mais parce qu'ils ne peuvent pas non plus renier leur foi, et parce qu'ils sont complètement déchirés, complètement écartelés. Beaucoup, la majorité d'ailleurs d'entre eux, restera en France, et on les appellera les nouveaux catholiques. Et ils vont mener, eux et leurs descendants, pendant 100 ans, c'est tout de même long, 100 ans, ça fait plusieurs générations, ils vont mener... Ils vont mener une vie... Non mais je trouve ça charmant. Ils vont mener une vie double. Dans la journée, ils font ce qu'il est obligatoire. Ils envoient leurs enfants au catéchisme. Sinon, ils payent des amendes ou ils sont tracassés. Ils essayent d'éviter de se marier à l'église en allant se marier au désert ou bien à Genève. Ils essayent aussi de cacher le moment de la mort de leurs proches, de façon à ce que le curé n'arrive pas. Et pendant le reste de la journée, c'est-à-dire le soir, quand la famille est réunie à la maison, on va rechercher la Bible que l'on a soigneusement cachée, si on a pu le faire, et surtout, on transmet aux enfants l'enseignement qu'on a reçu soi-même, et on leur dit, ce que vous apprenez dans la journée, ça n'a aucune valeur, c'est faux. Il faut le faire parce que nous sommes persécutés par les méchants, mais ce qui est vrai, c'est ce que vous apprenez à la maison, en dehors de l'enseignement public, de l'enseignement de l'Église catholique. Et ceux-là retrouveront une vie officielle en 1787, au moment de la proclamation de l'édit de tolérance. À ce moment-là, d'ailleurs, on verra refleurir un nombre considérable de protestants qui diront, puisqu'il doit venir se déclarer. Mais oui, nous sommes protestants de père en fils. Mon grand-père et ma grand-mère se sont mariés à Genève. Mon père et ma mère vivent soi-disant en concubinage. Ils se sont mariés au désert, etc., etc. Et on retrouve ainsi toute la filiation. Ça, c'est donc la plus grande partie, c'est-à-dire ceux qui sont restés en France. Il y en avait, d'après les comptages qui paraissent les plus proches de la réalité, non pas complètement réels, mais les plus proches, il y avait pas tout à fait 1 million de protestants sur une population approximativement de 20 millions d'habitants en 1685. Et il semble que le quart à peu près soit parti. Ça fait tout de même un nombre considérable. Surtout quand on pense qu'ils n'avaient pas le droit de partir. Comment font-ils ? Eh bien, dans un premier temps, on a l'impression que c'est la débandade. C'est un tel choc qu'ils reçoivent. En même temps, ils ne peuvent pas envisager, parce que c'est une atteinte à leur identité profonde absolument insupportable. Ils ne peuvent pas donc envisager de rester, d'abjurer même formellement. Ils laissent tout, ils abandonnent tout, ils partent. Seuls, avec leur famille, en groupes plus nombreux. C'est très varié, mais ils partent, ils laissent tout. Ils marchent la nuit, ils se cachent le jour. Ils essayent souvent, pendant un temps, de se rendre dans une grande ville, parce que c'est plus facile de se cacher dans une grande ville. Il y a toujours des voyageurs inconnus. Dans une bourgade, on est tout de suite repéré. Donc, on en voit un certain nombre qui se cachent un temps à Paris, à Lyon. Puis Lyon, c'est près de Genève. Et puis, quand ils s'aperçoivent que les choses ne s'arrangent pas, ils vont vers la Suisse, vers Genève d'abord, et puis vers la Suisse. Et puis ils arrivent là, ils n'ont plus rien. Ils sont totalement démunis, misérables, souvent blessés, malades, souvent aussi dépenaillés. Il faut donc qu'on les aide. Et c'est là que les églises françaises à l'étranger et les États, certains États étrangers, vont jouer un rôle primordial. Les premiers, ce sont bien sûr les cantons évangéliques, c'est-à-dire les cantons protestants, la République de Genève, la principauté de Neuchâtel, qui vont, non pas pendant une année ou deux années, mais pendant 10 ans et plus, accueillir ces fugitifs. Les accueillir, ça signifie leur donner à manger, les habiller, les soigner, les loger. Et puis, chercher ce qu'on va faire avec tous ces gens-là. Parce qu'il n'est pas du tout question de les garder. Bien sûr, quelques-uns resteront en Suisse, mais pas beaucoup. Les estimations actuelles, mais je dis bien estimations, sont d'environ 140 000 fugitifs qui ont traversé la Suisse. Or, la Suisse de la fin du XVIIe siècle n'est pas un pays riche. Elle a fait le plein de sa population. Et elle ne peut pas accepter un surplus tel, pas définitivement. Donc, il faut organiser leur accueil, mais aussi leur départ vers d'autres lieux. Et très très vite, une organisation remarquable, vraiment remarquable, va se mettre en place. Les cantons évangéliques, ou bien la République de Genève ou la Principauté de Neuchâtel, qui à l'époque est encore gouvernée par un prince français, vont être tout de suite, ils l'étaient déjà d'ailleurs, mais de plus en plus, en relation avec des princes étrangers, surtout allemands, prêts à accueillir ces fugitifs. Pourquoi ? Parce que pour bon nombre de princes allemands, et pas seulement les lecteurs de Brandebourg, mais aussi le landgrave de Hesse-Cassel, celui de Hesse-Darmstadt, et puis les princes de plus petits territoires, sont très intéressés par cet apport de forces vives. Ce sont pour la plupart des adultes, pour la grande majorité de jeunes adultes et de jeunes hommes adultes qui connaissent déjà un métier, donc il n'y a pas de problème d'apprentissage, de temps d'attente. C'est des forces aussi pour l'armée, dans la mesure où certains États sont intéressés par la formation d'une armée moderne, et c'est le Brandebourg essentiellement et les Provinces-Unies d'autre côté, pas les autres États. Donc, ces principautés sont tout à fait prêtes à faire venir les fugitifs. Encore faut-il que les fugitifs, perdus, anéantis, imaginez un peu l'état dans lequel ils peuvent être, soient au courant de ce qu'on leur propose. Alors ces princes envoient des représentants qui parcourent l'Allemagne, qui parcourent la Suisse et qui font tout bonnement de la réclame. Et quand ils ne sont pas assez riches pour se payer des plénipotentiaires, ils font tirer à de très nombreux exemplaires les édits d'accueil qu'ils se sont hâtés de promulguer et ils annoncent partout, ils inondent vraiment les villes suisses de ces édits d'accueil. Qui disent, voilà ce que nous accordons, c'est en gros un peu toujours la même chose, c'est-à-dire exemption d'impôts pendant un certain nombre d'années, le droit de fonder une école française, quelquefois même le devoir, nous verrons tout à l'heure dans quel cas, le droit d'avoir une église française, de garder une organisation ecclésiale semblable à celle qu'on avait en France, mais simplement au niveau de la paroisse, pas plus loin. Là, c'est le prince qui veut avoir la main sur l'église. Des facilités données aux manufacturiers qui veulent s'installer, on leur donne des subsides, ou bien on leur donne, ou bien on leur prête de l'argent, on leur donne la possibilité d'avoir une main-d'œuvre à bon marché, etc., etc. Quant aux paysans, on leur donne des maisons ou les matériaux pour en construire, du matériel aratoire et des graines au moins pour la première année. Donc, en gros, ces édits d'accueil disent à peu près la même chose. Certains précisent les points qui leur paraissent les plus importants. Par exemple, le margrave de Bayreuth-Anspach, qui est luthérien et dont les sujets sont luthériens, veut bien accueillir ces réfugiés parce que son cousin, le grand cousin, c'est-à-dire l'électeur de Brandebourg, qui est un Hohenzollern comme lui, mais un Hohenzollern passé à la réforme calviniste, alors que ses sujets sont luthériens, ça c'est un des paradoxes aussi des Allemagnes, a dit qu'il fallait les accueillir. Alors le petit margrave dit oui, mais les sujets luthériens voient d'un très mauvais œil ces réformés. Pour les luthériens, les réformés et les catholiques, ça se vaut. Pour un réformé, un catholique ou un luthérien, ça se vaut aussi. Et pour un catholique, les deux se valent. Alors on va les accueillir, mais à côté des privilèges, il va y avoir des actes ecclésiastiques qui vont préciser dans quelles conditions. Premièrement, non seulement ils ont le droit, mais ils ont le devoir de fonder une école française. Ils ont l'obligation absolue de célébrer le culte en français, et pas dans une autre langue, pour ne pas contaminer les luthériens. Et, comme c'est intéressant pour les petits Allemands du margraviat d'avoir une école où ils peuvent apprendre le français, il est bien évident que cette école est ouverte aux petits Allemands. Or, n'oubliez pas que le catéchisme s'enseigne à l'école. Alors, comment faire pour tourner cette difficulté? Eh bien, il faudra mettre les heures de catéchisme de telle sorte dans la journée que les petits Allemands luthériens ne soient pas tentés d'assister au catéchisme réformé. Moyennant quoi, on les accorde très largement. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui s'établiront là-bas. Donc, toute une correspondance entre les cantons suisses et puis les pays allemands ou les Provinces-Unies et même l'Angleterre. Et ces fameux représentants qui voyagent. À côté des représentants qui voyagent, il y en a qui sont sédentaires, qui sont de véritables ambassadeurs, tout en étant d'un genre un peu particulier, puisque en même temps qu'ambassadeurs, ils sont des agents recruteurs. Ils tiennent bureau de recrutement. Ceux-là ne sont pas en Suisse. Ils sont essentiellement à Francfort-sur-le-Main. Pourquoi Francfort? Pour une raison très simple. Si vous mettez un petit peu la carte de l'Allemagne dans l'esprit, vous voyez la position de Francfort, presque au confluent du Main et du Rhin, donc très facile à atteindre, par la voie fluviale. Les grandes routes de l'Empire, aussi bien les voies nord-sud que les voies est-ouest, se croisent à Francfort. C'est une place extrêmement importante sur le plan économique. Les foires de Francfort sont anciennes et puissantes. C'est donc un endroit où régulièrement viennent des gens de partout qui apportent les nouvelles et qui, à partir de là, les rediffusent. Et c'est un endroit politiquement assez privilégié puisque c'est une ville impériale qui dépend donc directement de l'empereur. L'empereur est loin et elle mène un peu la politique qu'elle veut. Mais c'est une ville luthérienne. et qui voit d'un très mauvais œil tous ces réformés. Seulement dans cette ville luthérienne, il y a une église française puissante, riche, et qui contribue depuis plus de 100 ans à la richesse de la ville, puisqu'elle s'est installée là au moment des persécutions dont je vous parlais tout à l'heure, au milieu du XVIe siècle, et c'est cette église qui va accueillir les fugitifs. Ce n'est pas la ville de Francfort. La ville de Francfort ne fera rien pour eux. Elle tolérera leur passage quelques jours, voire quelques semaines. Et c'est l'église qui va vraiment les accueillir, les réconforter, et qui, en même temps, grâce à tout ce nœud de communication, grâce à tout ce réseau dont le centre est là, comme l'araignée au centre de sa toile, grâce à tous ces représentants, pensez donc qu'à la fin du XVIIe siècle, on comptera à Francfort, entre les consuls et les représentants plénipotentiaires, jusqu'à 30 personnes différentes, représentant 30 États différents. C'est tout de même considérable. Qui vont donc, eux aussi, aider à redistribuer ce flot de réfugiés. Et quand je dis ce flot, c'est encore un mot faible. C'est une véritable marée, mais qui ne sortira jamais, qui avance au contraire toujours, puisque entre le printemps de 1686 et le printemps de 1693, l'église de Francfort aidera, assistera 46 000 personnes. Et jusqu'en 1710, elle en assistera 100 000. Et ça a commencé avant et ça continuera après. Bien sûr, à partir de 1689, il faut compter avec les Palatins. 1689, c'est la dévastation du Palatinat par les Français. Et devant les troupes françaises, les Palatins fuient. Et les Palatins sont réformés. Allemands, mais il y a aussi parmi eux de très nombreux Français établis là depuis le XVIe siècle ou établis depuis 3-4 ans. Donc tous ces gens-là fuient et pour une grande partie arrivent aussi à Francfort. À partir de là, comme je vous disais, ils vont repartir. Quelquefois ils savent où ils veulent aller. C'est relativement rare au début. Plus tard, oui. Au début, c'est relativement rare. Donc ils écoutent ce qu'on leur dit, ils se renseignent. Et ils partent pour la plus grande part, vers la Hollande, c'est-à-dire vers les Provinces-Unies. À partir des Provinces-Unies, souvent, ils vont au-delà des mers, vers l'Angleterre, et encore plus loin, l'Irlande, ou même l'Amérique. Ensuite, la terre qui va les attirer le plus, c'est l'électorat de Brandebourg, plus tard la Prusse. Parce que, bien sûr, on leur fait des conditions tout à fait particulières, mais aussi parce que l'électeur de Brandebourg, qui est très intéressé comme les autres, qui est l'un des plus puissants, et qui a surtout une idée très nette de ce qu'il veut, c'est-à-dire un pays puissant, celui qui mènera l'Allemagne, l'électeur de Brandebourg met tout en œuvre pour en attirer le plus grand nombre possible. Et quand je dis qu'il met tout en œuvre, vous verrez que ça va très loin. J'ai retrouvé à Bâle, dans les archives de la ville, des documents de 1688. C'est une série de sermons et une série de recensements de réfugiés qui sont là pendant l'hiver 87-88. Ces sermons sont faits par un de leurs pasteurs, ce sont des gens qui viennent des Alpes du Sud, c'est-à-dire de la partie italienne qui appartenait à l'époque au Dauphiné et de la vallée parallèle qui était, elle, savoyarde. Ce sont tous des francophones, au moins pour le culte, bien sûr, parce qu'ils parlaient un dialecte franco-provençal, mais ce sont des francophones et ils sont parents, les uns savoyards, les autres français, les deux vallées parallèles avec des communications très faciles entre les deux, ils sont vraiment parents. Ils sont là, très nombreux, et leur pasteur, deux fois par semaine, va les trouver dans les villages où ils sont, autour de Bâle et dans la ville, et prêche. Et qu'est-ce qu'il dit dans ses sermons? Toujours la même chose. Vous ne pouvez pas rester au-delà de l'hiver. Vous devez partir plus loin. Et vous devez suivre la main de Dieu. La main de Dieu vous montre une direction. La main de Dieu est sur un prince. C'est vers lui qu'il faut aller, et ce prince, c'est l'électeur de Brandebourg. à l'appui de ceci, de cette démonstration, citation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et puis, après chaque sermon, il fait venir le groupe qui l'a écouté et il l'interroge, les uns après les autres. Vous savez que vous devez partir. Ça oui, ils sont bien d'accord, ils savent bien qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière, donc il faut aller plus loin. Vous savez que vous devez partir, oui. Est-ce que vous êtes prêt à aller en Brandebourg? Certains disent oui, puisqu'il faut aller quelque part, là ou autre part. D'autres disent pourquoi pas, mais il faut consulter le reste de la famille qui est à Zurich, à Saint-Gall ou à Winterthur. Et puis alors il y a la troisième catégorie qu'on appelle les très méchants et très opiniâtres qui disent que sûrement pas. Sûrement pas en Brandebourg, ils veulent bien suivre la main de Dieu, mais ils veulent pas aller en Brandebourg. Et si on réfléchit un tout petit peu, même leur pasteur, qui était, lui, obligé de leur tenir ce langage, devait bien comprendre leur réaction. Voilà des gens qui viennent du Haut-Dauphiné, des montagnes, qui connaissent un certain climat, qui sont tous des cultivateurs, qui connaissent un certain sol, des manières culturales, qui sont habitués à un certain environnement, qui se trouvent déjà, ils l'ont voulu, bien sûr, mais ils l'ont voulu comme on veut quelque chose quand on n'a pas le choix, n'est-ce pas, pratiquement, qui ont traversé la Suisse, étape par étape, qui sont partis nombreux de leur village, car les paysans partent en grand nombre, et nombreux, communautés entières, qui ont vu ces groupes s'amenuiser au fur et à mesure que le temps passait et que le voyage continuait, à cause des maladies, à cause des accidents, à cause des intempéries, à cause du fait qu'un vieillard est plus fragile qu'un homme dans la force de l'âge, qu'une femme enceinte résiste moins bien aussi que quelqu'un, qu'une autre qui n'attendra pas un enfant, qu'un bébé nouveau-né est aussi plus fragile qu'un autre. Qu'il a fallu passer la frontière et que souvent, comme ils étaient très nombreux et donc suspects, ils se sont fait dénoncer et qu'une partie d'entre eux est restée dans les prisons, dans les galères, dans les couvents ou est morte. Donc, des gens qui sont déjà dans un état d'affaiblissement, tant physique que moral, qui arrivent au sud de la Suisse, qui espèrent pouvoir rester là. Parce que bien sûr, au début, ils espèrent tous pouvoir rester tout près. Ils espèrent tous pouvoir rentrer. Ils pensent tous que c'est une épreuve que Dieu leur envoie pour leur manque de foi, pour leur tiédeur. Mais que cette épreuve n'aura qu'un temps. Que le roi sera éclairé. Et que le roi, se rendant compte de la faute qu'il a commise, et le mot « faute » est même encore faible, les fera revenir, eux qui se sont toujours montrés les plus loyaux et les plus fidèles des sujets depuis l'édit de grâce d'Alais. Et 12 ans plus tard, en 1697, ils sont bien obligés de se rendre compte que non, c'est un non définitif et réitéré. Mais quelques années avant, ils espèrent encore, donc ils s'accrochent. Il y en a qui traversent la Suisse assez vite, parce que pour eux, on a déjà organisé les choses. Mais il y en a beaucoup qu'on voit s'accrocher. Et puis, ils ne peuvent plus rester là, alors ils vont dans telle autre ville. Ils n'avancent pas directement du sud vers le nord de la Suisse. Ils avancent du sud vers le nord, et puis ils reviennent vers l'ouest, et puis un peu plus vers le nord. C'est un espèce de mouvement brownien qui agite certains d'entre eux. Et puis, quand ils arrivent à Bâle, ou à Schaffhouse, qui sont les deux points de sortie de la Suisse, ils savent bien que là, on ne peut plus reculer et qu'il faut partir, car ni Bâle ni Schaffhouse ne les gardent. Seulement, le Brandebourg, c'est vraiment très loin. Très très loin, on ne sait rien là-dessus. Déjà en Suisse alémanique, on ne comprend rien à ce que disent les gens. C'est une autre façon de vivre. C'est une autre façon de se vêtir, c'est une autre façon de se nourrir. Ce sont d'autres habitudes de la vie quotidienne. Alors, encore plus loin, qu'est-ce que ça doit être? Et puis, on a des nouvelles de ceux qui sont déjà partis. Et ces nouvelles ne sont pas très bonnes. Bien sûr, il y a la propagande officielle qui dit que le Brandebourg, c'est parfait. Que c'est un État qui a été dévasté par la guerre de 30 ans, ce qui est vrai. C'est un État qui a été tellement dévasté par la guerre de 30 ans qu'il n'a pas retrouvé, à la fin du siècle, la population qu'il avait au début du siècle. Donc il y a des villes à moitié vides, des maisons vides. Il suffit de s'y installer. Tout ça, c'est vrai. Seulement, ce que ne disent pas ces propagandistes, et ce que disent ceux qui écrivent, c'est que la population ne veut pas d'eux, ne les accueille pas, les repousse, refuse de leur vendre à manger ou à boire, qu'ils ne trouvent pas de travail, et que quand parfois ils en trouvent, parce que comme ils n'ont plus rien à perdre, ils acceptent n'importe quelle condition de travail, ils sont très mal vus, qu'on fait des pétitions contre eux, qu'on veut qu'ils s'en aillent, que seuls les princes leur accordent des privilèges et que les princes les protègent, mais ils ne vivent pas à côté du prince. Et que ça, c'est vraiment trop difficile. Donc, le Brandebourg ou d'autres terres lointaines ne les attirent pas beaucoup. Cependant, c'est vers le Brandebourg que la grande majorité des réfugiés qui se fixeront en Allemagne se dirigeront, parce que c'est aussi l'État le plus vaste. Mais tout de suite après, en ordre d'importance, c'est la Hesse Cassel. Et le cas de la Hesse Cassel est, me semble-t-il, assez intéressant. D'abord parce qu'on en parle beaucoup moins que du Brandebourg. On parle toujours des protestants des Cévennes en France et on parle toujours du Brandebourg ou de la Prusse en Allemagne. Et je dois dire que je trouve ça un peu fatigant parce qu'il y avait des protestants dans bien d'autres provinces que les Cévennes, que les Cévenols ne sont pas ceux qui sont partis les plus nombreux. Il s'en faut même de beaucoup, d'ailleurs. Ils n'auraient pas pu faire la guerre des Camisards s'ils étaient tous partis. Que les Poitevins sont partis en bien plus grand nombre, que la Normandie s'est vidée, que l'Île-de-France, la Champagne et la Picardie ont fait la même chose, et que le Dauphiné, qui était une province très protestante, a vu un tiers de sa population protestante partir. Des vallées entières se sont vidées. Et de même, en Allemagne, il y a le Landgrave de Hesse-Cassel, très attentif à tout ce qui se passe, très attentif, et qui entretient une correspondance avec le représentant des Provinces-Unies, qui est son propre représentant aussi, à la Diète de Ratisbonne, pour savoir les nouvelles. Et qui très vite, très tôt, le premier, va proclamer un édit d'accueil. Celui de Potsdam, bien connu, est de novembre 1685. Fin octobre 1685. Mais celui du Landgrave de Hesse-Cassel est d'avril 1685, c'est-à-dire avant même la révocation. Il a bien compris que la situation ne ferait que se détériorer. Alors, il dit, eh bien moi, j'accueille mes coreligionnaires persécutés. Mais, parce que c'est toujours inextricablement mêlé, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect économique. Il les accueille, mais à condition qu'ils soient relativement fortunés ou bien qu'ils exercent un métier nouveau, qu'on n'exerce pas encore dans le Landgraviat, donc qu'ils ne fassent pas concurrence aux corporations qui sont installées et qui, au contraire, augmentent la richesse du pays. Il déchante très vite, puisque dès le mois d'août, il proclame un second édit qui est plus large que le premier, et qu'en décembre de la même année, il en proclame un troisième, qui lui, alors, est très large, et en fait, il accueillera n'importe qui, du plus riche, entre guillemets, au plus pauvre, et ce seront évidemment de loin les plus nombreux. L'autre pays important, c'est même le plus important, ce sont les Provinces-Unies. Il n'y a pas là d'édit d'accueil, comme les princes allemands en proclament, mais très vite, la ville d'Amsterdam et les États généraux vont prendre des mesures pour accueillir les religionnaires fugitifs de toutes les professions, de tous les milieux, avec une certaine préférence pour les militaires comme l'électeur de Brandebourg, parce que Guillaume d'Orange veut former lui aussi une armée moderne et bien encadrée, que l'armée française à l'époque est la plus puissante, la mieux dirigée, la mieux formée, donc c'est tout intérêt d'avoir des soldats et des officiers français, et puis parce que Guillaume d'Orange prévoit déjà ce qui va se passer très peu de temps après, en 1688, c'est-à-dire la traversée de la mer du Nord, et puis la prise du pouvoir en Angleterre, et il deviendra le roi Guillaume III. Un autre autre pays encore qui va accueillir très largement les réfugiés, comme il l'a déjà fait au XVIe siècle, c'est l'Angleterre. Je dis l'Angleterre à dessein, et non pas la Grande-Bretagne, il y en aura bien sûr qui iront s'établir en Écosse, mais pas tellement. La plupart s'établiront à Londres ou dans le sud de l'Angleterre, où il y avait déjà des communautés. Et puis, dans une autre partie de ce qui est encore à l'époque la Grande-Bretagne, l'Irlande. Mais l'installation en Irlande est très difficile. Il y en avait déjà quelques-uns qui s'étaient établis là auparavant. Cependant, l'Irlande, c'est un peu comme le Brandebourg de l'autre côté. Le Brandebourg à l'est, l'Irlande à l'ouest, c'est très loin. C'est très inconnu, il faut traverser la mer, et pas seulement la Manche. Ça n'est pas faute d'avoir fait aussi beaucoup de propagande pour peupler l'Irlande de huguenots. Car la politique de l'Angleterre est de protestantiser l'Irlande le plus totalement possible. Là, c'est le contraire, ce sont les catholiques qu'on chasse, ce sont les catholiques qu'on persécute, et ce sont des réformés ou des anglicans qu'on veut installer. Alors, il y a tout un mouvement qui cherche à attirer les huguenots qui sont en train de traverser la Suisse pour les installer en Irlande. Mais, comme je vous disais, l'Irlande, c'est vraiment très loin. On a beau leur dire que le climat y est très doux, que là aussi, la vie est très peu chère, qu'on cultive la terre et que même, il suffit de la creuser un tout petit peu pour pouvoir avoir des moyens de chauffage, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs, ça n'attire pas beaucoup les malheureux qui se trouvent en Suisse. Et en fin de compte, c'est surtout à partir de l'Angleterre que l'Irlande sera peuplée de huguenots, en particulier par les anciens officiers de l'armée de Guillaume III, à qui il dira « Vous aurez une pension ». Condition, et même vous aurez des propriétés à condition que vous alliez vous établir en Irlande. Et ces gens, et c'est intéressant aussi parce que c'est bien la complexité de toute réaction humaine, ces gens qui ont tout abandonné, qui ont été persécutés chez eux, ne se posent absolument aucune question quand on les installe dans les biens des catholiques qu'on a chassés. De même, aux États-Unis, ceux qui iront s'y établir. Mais, encore une fois, dans l'esprit du temps, dans toute la façon de vivre, ça n'avait rien d'extravagant, ils se montreront parmi les meilleurs des esclavagistes aux États-Unis pendant tout le XVIIIe siècle. Donc, comme je vous le disais, et comme j'ai essayé plutôt de vous le dire, ils se dirigent vers ces différents pays. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'ils vont rester? Oui, souvent, mais pas toujours. En effet, on voit un certain nombre d'entre eux, peu à peu, devenir des déracinés. Et pour employer, pardonnez-moi, un terme qui n'a rien à voir avec l'époque, ce qu'on appellerait maintenant des marginaux. C'est-à-dire des gens pour lesquels l'arrachement a été tel qu'ils ne pourront plus jamais s'installer quelque part. Ils seront toujours des étrangers. Ils se sentiront toujours étrangers partout. Et ils vont devenir les vagabonds des églises françaises. Et on le voit très bien à Francfort, à cause, encore une fois, de ce rôle que joue Francfort. Ils reviennent 3 fois, 4 fois, jusqu'à 15 fois, 20 fois. Jusqu'au moment où ils mourront dans une église ou dans une autre, ou bien sur le bord d'une route. Ce sont surtout d'ailleurs des agriculteurs, pas uniquement, mais surtout des agriculteurs. Et ça aussi, c'est une chose, me semble-t-il, qu'on peut arriver à comprendre plus facilement, même si c'est très très difficile pour un artisan de se déraciner, il retrouve plus facilement les mêmes conditions de travail. Pour un agriculteur, de toute façon, elles sont différentes. Pour un noble, ou pour un notable, c'est relativement aussi plus facile de se réinsérer quelque part, parce qu'il retrouve la même couche sociale dans laquelle, d'abord dans laquelle il est accueilli, il y a des solidarités qui jouent là, alors qu'elles ne jouent pas entre les artisans et entre les paysans, où il y a au contraire cette méfiance dont je vous parlais tout à l'heure. Donc toute une partie de cette population de réfugiés, de fugitifs, va peu à peu devenir une population de déracinés. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappée parce que on ne le voyait pas tellement dans les monographies qui existent sur les églises françaises à l'étranger. Il y en a beaucoup. D'abord parce que la plupart datent du siècle dernier. Et quand elles ont été écrites, c'était encore dans cet esprit hagiographique. Les ancêtres étaient forcément les meilleurs, des gens de grande vertu, de grande foi, dont on était fiers, et on ne faisait état que de ceux qui avaient réussi socialement. Mais la grande majorité d'entre eux, la grande majorité de ceux qui forment le refuge, c'est justement les pauvres gens, pas forcément ceux qui sont marginalisés, mais toute cette masse des pauvres gens, silencieux, qui n'apparaissent pas, mais qui sont vraiment le fond, le cœur de ce refuge. Voilà. Merci, je ne voudrais pas vous ennuyer trop longtemps. Je vous ai apporté quelques photocopies des registres de Francfort sur lesquels je travaille, parce que j'ai pensé que ça vous intéresserait. Si vous voulez, je peux vous lire une ou deux notices, puis je vous ferai circuler des photocopies. Je vous disais que l'église de Francfort a accueilli ses réfugiés. Et bien sûr, on tient un état des gens qui passent, on note leur nom, leur prénom, leur situation de famille, leur métier, l'endroit d'où ils viennent, par où ils sont passés, où ils ont l'intention d'aller, la somme d'argent qu'on leur donne. Et quelquefois, en une ligne ou deux, ça dépend du secrétaire, celui qui écrit le mieux et le plus vite en note davantage, celui qui a plus de mal à manier la langue française en note un peu moins. Et puis à partir de 89, quand les palatins arrivent aussi, alors là on n'a plus le temps de noter beaucoup de détails. Mais quand on a le temps, on nous donne des détails, par exemple. Denis Jean de Paris, autrefois barbare, ayant été pris sur mer aux environs de Malte par le chevalier de Villegagnon en l'an 1669, qu'il a vendu au duc de Duras, lequel l'a fait baptiser à Genève par M. Tourtin, c'est Turetini, et l'a élevé, c'est un grand, Turetini, c'est un grand théologien, je ne vois, et l'a élevé dans la religion réformée, l'ayant fait apprendre le métier d'orfèvre et marié à une de ses filles de chambre, sa femme s'appelant Jacqueline de Courcelles, avec laquelle il a eu 4 enfants, dont 2 sont à Düsseldorf, auprès de son beau-frère, et 2 garçons qui lui ont été enlevés par les jésuites, ayant 3 témoignages du 29 janvier 86 de Neuchâtel, en Suisse, et les 2 autres de Limbourg et d'Inslein, voulant aller avec sa femme à Berlin, assisté de 4 florins. Vous voyez, bon, quelques lignes, sans pathos, sans rien, enfin, quelle vie. Et il me tente beaucoup, cet homme. Il y en a beaucoup d'autres encore. Il y a celui qui me revient à l'esprit maintenant, dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, avocat, dont on dit que, entendant les dragons arriver à la porte, il se sauve de chez lui par la fenêtre, laissant son père de 80 ans aux mains des dragons, qu'il réussit à, il est du sud-ouest, à gagner la mer Méditerranée, à prendre un bateau jusqu'à Nice, à remonter à travers la Savoie, à ce moment-là le duc de Savoie ne persécute pas trop, jusqu'à la Suisse, à traverser la Suisse, à se retrouver à Francfort. Un autre encore, dont on dit qu'il a été emprisonné, qu'il a subi des tortures et qu'il a vraiment émerveillé par sa constance tous ceux qui étaient prisonniers avec lui et qu'il n'a pas cédé, ça veut dire qu'il n'a pas abjuré. D'autres encore qui ont abjuré et qui sont tellement malheureux. Et on le sent vraiment, puisque quand ils arrivent de l'autre côté de la frontière, ils cherchent un endroit où ils vont pouvoir faire réparation, c'est-à-dire réintégrer la véritable Église. D'autres encore, et ça c'est un cas tout à fait extraordinaire, originaire d'un petit village à côté de Mons, c'est-à-dire en dehors du royaume de France, et qui sont des agriculteurs aussi, et qui arrivent en Allemagne par groupe de 26 et 30, et qui là, ils sont catholiques officiellement, abjurent le catholicisme, se font tous réformés, et qu'on retrouvera plus tard agriculteurs établis en Brandebourg. Et c'est vraiment une énigme pour moi, ces gens-là, parce que, encore une fois, c'est en dehors du royaume. Mais ils sont originaires d'une région qui avait été très touchée par la réforme au XVIe siècle. Et on peut se demander si le phénomène auquel on assistera en France entre 1685 et 1787, n'a pas existé. Dans le sud des Pays-Bas, entre le XVIe siècle et cette époque-là. Et que, peut-être, il existait encore une tradition familiale, peut-être même un culte familial. Là aussi, j'ai l'intention, quand j'en aurai le temps, d'aller chercher un peu plus loin, mais j'ai appris l'autre jour que la plupart des sources avaient disparu. Alors, mes espoirs sont un tout petit peu diminués. Il y a aussi des jansénistes, deux jansénistes qui doivent être des grands personnages qu'on est très content d'avoir gagnés à la cause réformée, et qui arrivent vraiment démunis de tout. Alors on les habille complètement et on nous donne le détail des habits qu'on leur achète avec le prix, et on va même jusqu'à acheter des boucles en argent pour leurs souliers. C'est la seule fois où j'ai vu ça, mais ça montre à quel point c'était des personnages jugés importants. Et puis alors il y a, chose intéressante aussi me semble-t-il, d'assez nombreux catholiques, étudiants en théologie, prêtres ou moines pour la plupart, donc des gens versés dans les études de théologie, et non pas simplement celui qui a, comme on dit, la foi du charbonnier, qui quitte le royaume, alors qu'il n'était pas obligé, qui quitte le royaume et souvent une charge, un bénéfice, et qui passe à la réforme. Avec tout ce que ça signifie, comme méfiance aussi vis-à-vis d'eux, car on se demande si ces gens-là ne sont pas des espions, et on les examine avec beaucoup d'attention. Et puis il y a aussi d'autres catholiques qui sont exilés pour avoir aidé des religionnaires fugitifs, et qui sont à ce moment-là pris en charge par ceux qu'ils ont aidés, et qui partent, qui voyagent avec eux. Alors je peux vous faire passer quelques photocopies. Attendez, celle-là, elle n'est pas très visible. Est-ce qu'il y a
des traces encore aujourd'hui?
Oui, parce qu'alors, j'ai parlé trop longtemps, et pardonnez-moi, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que des traces, il y en a à foison. À foison. Et que nous avons... Bon, moi, j'ai commencé à travailler sur ces sources il y a maintenant... Il y a maintenant 7 ans, 8 ans. 8 ans, je crois. Attendez, on est en... bientôt en 86, ça va faire 8 ans que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et que peu à peu, d'autres pays du refuge, enfin, de l'ancien refuge, ont été intéressés par ces travaux. Et qu'à l'heure actuelle, il y a des équipes en Suisse, à l'université de Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, en Suisse alémanique aussi, en Allemagne avec l'université de Göttingen, en Hollande avec l'université de Nîmes, à Dublin avec Trinity College, qui travaillent avec nous. Donc on forme une équipe internationale. C'est en Suisse et aux Pays-Bas que ça marche le mieux pour l'instant, que c'est le plus développé et que ça avance avec le plus d'énergie. Et ça continue à se développer d'ailleurs pas mal. En France, ça y est, on y vient, lentement, mais j'espère sûrement. Ce n'est pas du tout sur le plan universitaire que ça se développe en France d'ailleurs, mais ce sont en général des érudits locaux. Quand je dis pas du tout sur le plan universitaire, j'exagère un peu, puisque dernièrement, il y a une étudiante de Normandie qui a soutenu une maîtrise sur l'église de Luneray. Mais c'est très peu sur le plan universitaire. Ce sont donc des érudits locaux, des gens aussi qui sont des protestants eux-mêmes et qui ont fait leur généalogie, qui ont découvert donc que si eux descendaient de gens restés au royaume, toute une branche de leur famille était partie et qui recherche et qui, pour certains, acceptent de travailler avec nous, ce qui n'est pas facile parce que pour que ce travail ait une certaine valeur, il faut que tout le monde utilise la même méthode. Donc nous dépouillons tous les registres, toutes les listes que nous trouvons, toutes les sources quantitatives selon une méthode unique. C'est donc une astreinte. C'est ennuyeux, très ennuyeux. Je crois qu'il ne faut pas se le cacher. C'est tout un dépouillement vraiment, vraiment très ennuyeux. Ensuite, il y a tout un énorme travail de saisie sur ordinateur de ces notices dépouillées, ce qui est aussi ennuyeux. Mais au-delà de ces étapes ennuyeuses, il y a alors les découvertes qu'on fait simplement en passant des programmes, n'est-ce pas, et en regardant et en étudiant les résultats. Alors là, ça n'est plus du tout ennuyeux et on est payé de ses peines. Et ce que je trouve absolument remarquable, c'est peut-être une autre façon de faire l'Europe, au fond, pourquoi pas, c'est que tous ceux qui travaillent avec nous n'ont absolument pas fait d'observation en disant « nous voulons une méthode qui soit la nôtre », ils ont tous compris tout de suite que c'était le seul moyen de s'en sortir. Ils ont compris aussi très bien qu'il n'y avait là-dedans Aucun impérialisme français ou parisien. Très bien, il n'y a pas eu de crainte de ce genre. Et tous travaillent selon cette méthode, en employant donc pour l'instant un certain logiciel. Enfin, ça, c'est rentré dans les détails techniques. Et puis ça peut évoluer. Mais en tout cas, la méthode est unique pour toutes les sources qu'on dépouille. Et pour l'instant, tout est rassemblé à Paris.
Est-ce qu'il reste des églises françaises ?
Oui. Il en reste, oui. Alors, ce qu'on appelle l'église française à l'heure actuelle, c'est quelquefois simplement un nom. Par exemple, l'église française de Francfort existe toujours, elle s'appelle toujours Französische Gemeinde, Reformierte Gemeinde, mais on n'y parle plus du tout français. Le pasteur actuel, d'ailleurs, c'est récent. L'avant-dernier était encore un Suisse bilingue. Mais le dernier et celui-ci sont des Allemands de Hesse qui ne parlent pas un mot de français. Ceci dit, tous les deux mois, il y a un culte célébré en français par un aumônier militaire, et à ce moment-là, les Français ou les francophones de la ville réformée assistent au culte-là. Mais sinon, le nom, ils sont très attachés à leur tradition, mais c'est fini. Depuis peu de temps, hein, les registres sont tenus en français à Francfort jusqu'avant la guerre de 14. La grande coupure, c'est la guerre de 14. Les registres d'état civil et du consistoire. C'est-à-dire du gouvernement de l'Église, si vous voulez.
C'est pas en allemand.
Ah non, c'est pas du tout en allemand. Non, d'abord, parce qu'à cette époque-là, ils sont bilingues, mais le culte est en français. Oui, je peux vous en faire passer d'autres si ça vous intéresse. Tout le culte est en français. Et puis... Il peut y en avoir en bilingue, mais je sens que ça fait un... Et vous avez encore les églises wallonnes. Les églises wallonnes, ce sont les descendantes aux Pays-Bas actuels des églises fondées par les fugitifs de la Belgique actuelle, de Wallonie. Ou alors là, on assiste à un autre paradoxe, c'est que dans certaines de ces églises, le culte est toujours célébré en français. Les gens y sont très attachés, mais ils ne comprennent plus le français. L'assimilation, si vous voulez, même si on a tenu les registres en français jusqu'à la fin du 18e, au début du 20e, il n'empêche que les gens étaient, eux, non seulement intégrés, mais assimilés depuis la fin du 18e. Seulement, ils ne voulaient pas perdre les privilèges qui s'attachaient à leur origine. Et à Berlin, ça a été l'occasion de grands conflits et de grandes discussions à la fin du 18e siècle. Et en fait, s'ils voulaient garder l'église française, c'était à cause des privilèges qui y étaient attachés. Il y a toujours une église française à Berlin, d'ailleurs, mais alors la Perse. D'abord, elle est à l'est, elle est très belle, et ni le pasteur, ni sa femme ne parlent le français. Et les quelques paroissiens qui viennent encore ne parlent pas du tout. Mais ce qui est très frappant, peut-être pas dans tous les pays, mais pour ce que je connais moi, c'est-à-dire la Suisse alémanique, moins la Suisse francophone, mais la Suisse alémanique, l'Allemagne, et je crois dans d'autres pays aussi, c'est que les descendants de Huguenots, qui le savent, sont extrêmement fiers de leur ascendance. C'est pour eux, c'est le signe de l'appartenance à une sorte d'aristocratie. En Allemagne, d'ailleurs, il y a des sociétés huguenotes un peu partout. Il y en a une en Allemagne, qui a été fondée au moment du deuxième centenaire de l'édit de la révocation, mais qui est très libérale. On peut y entrer si on a de l'intérêt pour les travaux, même si on n'a pas d'ancêtre huguenot, et même si on n'est pas allemand. Alors qu'en Angleterre, la société huguenote n'admet que les gens qui peuvent faire la preuve, pas de 8 quartiers de noblesse, mais d'au moins 4 ascendants huguenots.
Et alors on dit que le départ des protestants appauvrit le royaume de France.
Oui.
Vous avez l'air de dire que c'était des populations essentiellement
rurales. Non. Alors je me suis mal fait comprendre, excusez-moi. La majorité des paysans viennent du Dauphiné et de Haute-Provence. Là, alors vraiment, c'est 99% de paysans, les protestants qui viennent de ces régions-là. Dans les autres régions du royaume, il y en a, mais il y en a peu. Ce sont surtout des artisans, du textile, ce qui est normal à l'époque. Quant à l'appauvrissement de la France, il faut beaucoup nuancer. C'est vrai ponctuellement. C'est vrai, par exemple, pour Rouen. C'est vrai pour une partie du Poitou, parce que le Poitou avait une importante population protestante et qu'elle est partie en vraiment en très grande majorité. C'est beaucoup moins vrai pour d'autres régions où le tissu social s'est tout de suite reconstitué. Et puis en plus, il y a une crise économique à la fin du XVIIe siècle. Alors ça se fait moins sentir, si vous voulez. Ça se fait beaucoup plus sentir en Suisse, par exemple, où cet afflux de population qui dure très longtemps va être ressenti péniblement, à tel point qu'à la fin du siècle, les protestants français qui restent encore à Zurich sont mis dehors. Parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir, donc que les étrangers aillent autre part. Il ne faudrait pas en tirer comme conclusion que les Suisses n'ont pas bien accueilli les Huguenots quand vous saurez que la ville de Berne a augmenté les impôts pendant plusieurs années de 30%, c'est tout de même pas mal, pour aider les fugitifs, et que la ville de Zurich a eu à peu près les mêmes sommes, c'est-à-dire des sommes très importantes grâce à des collectes, c'est tout à fait important. Mais il s'est passé ce qui se passe toujours. Au début, on les a accueillis à bras ouverts. C'était des frères dans la foi qui étaient persécutés. Et puis, comme les frères dans la foi persécutés ne se contentaient pas de passer pendant un an ou deux ans, mais que ça durait 10 ans, on a trouvé que ces Français étaient vraiment des gens odieux, fatigants, pénibles, désagréables. C'était, n'est-ce pas, des gens qui... Alors, dans l'autre sens, qui ne s'habillaient pas comme tout le monde, qui parlaient fort, qui formaient des groupes dans les rues, qui vivaient beaucoup dans la rue. En Suisse alémanique, ça ne se fait pas beaucoup. Et qui mangeaient une curieuse cuisine et qui parlaient une langue absolument incompréhensible. Qui ne se conduisaient pas comme de bons chrétiens. À tel point d'ailleurs que, je ne sais plus si c'est à Saint-Gall ou à Schaffhouse, une de ces deux villes, j'ai retrouvé un texte, c'est une pétition, c'est un texte qui ordonne aux fugitifs qui résideront dans la ville plus d'un mois de s'habiller comme tout le monde au bout d'un mois, c'est-à-dire en noir avec des rabats blancs. Pas de décolleté, pas de dentelle. J'aimerais savoir d'ailleurs s'il y avait beaucoup de décolleté, beaucoup de dentelle. À cette époque-là, ils étaient à la fois accueillants et méfiants. Les deux coexistaient. En même temps, ils sont très accueillants. Ils dépenseront beaucoup d'argent pour ces réfugiés, c'est vrai. Ils payeront vraiment de leur denier, de leur personne. Non seulement ils les logeront dans des hôpitaux, etc., mais beaucoup de particuliers, pendant des années, en logeront chez eux. Tout ça est vrai. Mais ils refusent qu'ils se fixent définitivement. Sauf, encore une fois, dans le canton de Berne, qui à l'époque est beaucoup plus vaste que maintenant, puisqu'il comprend en particulier tout le canton de Vaud, et que c'est là, en particulier, qu'un certain nombre de réfugiés s'établiront et feront souche. À Genève, il y en aura quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais la position de Genève vis-à-vis de la France est quand même très délicate. Genève est une république, n'est pas un canton suisse. C'est une république alliée au canton et très surveillée par la France. C'est la même chose pour Bâle. Bâle est un canton. Mais elle est très, très, très surveillée par le représentant du roi. Le gouverneur de la place forte de Huning, qui est juste en face Bâle, sait très bien ce qui se passe à Bâle. Il est très bien renseigné. Et quand il apprend qu'il y a un nouveau contingent de réfugiés qui arrive, il écrit au magistrat balois. Le roi, mon maître, sera très mécontent quand il apprendra qu'il y a tant de sujets rebelles entre vos murs. Et j'espère qu'ils partiront bientôt. Les Suisses alémaniques, plus facile de se fondre en Suisse francophone, bien sûr, en Suisse romande. En Suisse alémanique, c'est plus difficile, bien sûr. Et puis, la structure des villes n'est pas la même. Il y a un patriarcat qui n'est pas le même en Suisse alémanique et en Suisse romande. Il y a aussi des corporations très fermées, très puissantes en Suisse alémanique. Si bien, par exemple, qu'à Zurich, au début, la ville de Zurich, le magistrat, sera intéressé par les bonnetiers. Les bonnetiers français ont en effet des métiers qui sont beaucoup plus perfectionnés que ceux qu'on connaît à l'époque en Suisse et en Allemagne. Donc on les accueille volontiers, on leur permet de fonder des manufactures, mais à l'extérieur de la ville, là où les corporations n'ont pas d'emprise, n'ont pas de pouvoir, et à condition qu'ils prennent comme ouvriers, pour les former, des Zurichois. Si bien que quand les Zurichois seront formés, eux devront partir. À Berne, il y a encore à l'heure actuelle des familles qui sont descendantes de réfugiés établis là depuis la fin du XVIIe siècle. Mais ces familles-là ne sont pas bourgeoises de Berne. La ville de Berne les a embourgeoisés dans d'autres localités dépendantes, mais pas dans la ville de Berne. Et à Zurich, il n'y en a plus du tout, à Schaffhouse non plus, à Saint-Gall non plus. Il en est passé beaucoup, mais ils ne sont pas restés. Non, ça n'en a pas créé. Parce que depuis longtemps déjà, ils s'étaient complètement assimilés, et de même qu'ils s'étaient toujours montrés en France de très loyaux sujets, dès qu'ils ont été les sujets d'un autre prince, ils ont été aussi les plus loyaux des sujets. Et d'ailleurs, vous faites bien de me poser cette question, parce que je voulais vous dire quelque chose aussi. Dans Friedrichsdorf, c'est une petite ville qui est maintenant dans la banlieue proche de Francfort. On y va avec quelque chose qui ressemble au RER ici. C'est à la même distance que Saint-Germain-en-Laye de Paris, vous voyez, mais à cette différence près que c'est dans le Taunus et que jusqu'à ces années très proches, c'était assez difficile d'accès. Ça a été fondé en plein désert par le fameux prince Frédéric à la jambe d'argent, le prince de Hombourg de Kleist. Et en pleine forêt, en pleine montagne, dans un endroit vraiment très très pauvre. Pendant longtemps, il n'avait même pas de route et pas d'église, il n'avait qu'un sentier pour aller jusqu'à Bad Homburg, où se trouvait le temple. Et puis, la communauté a grandi, a prospéré, d'autant plus qu'elle avait des privilèges très remarquables. Il était en effet interdit aux Allemands, c'est pas le seul endroit, mais là ça a été réitéré pendant très longtemps, il était interdit aux Allemands de s'établir à Friedrichsdorf. Ou s'ils s'y établissaient par mariage, ils devaient se mettre aux Français, et il n'y avait qu'une école française. Et ça a duré jusqu'à ce que les Prussiens mettent la main sur l'Allemagne. En 70, la guerre contre la France. Ce sont tous de bons Allemands. Mais l'état-major général doit se méfier quand même un petit peu de ces gens. Alors, en particulier ceux de Friedrichsdorf qui sont parfaitement bilingues, il y en a 33 qui sont enrôlés à ce moment-là, on va les enrôler comme interprètes. Et ils feront bien leur métier d'interprète et ils vont tous revenir vivants de la guerre. Et quand on entre dans le temple de Friedrichsdorf, on est frappé, c'est un beau temple, tout simple, avec sur le mur du fond la chaire et la table d'autel en dessous, de chaque côté, deux tables en marbre noir, comme les tables de la loi. Sur une inscription en allemand qui remercie Dieu d'avoir sauvé les 33 membres de la communauté qui ont défendu la patrie. Bien sûr, la patrie, c'est l'Allemagne. Tous les noms sont français, les prénoms ne le sont déjà plus tous. Ça, c'est en allemand. Et c'est quelques années après la guerre de 70. De l'autre côté, une autre table en marbre noir avec une inscription en français à l'occasion du deuxième centenaire de la fondation de Friedrichsdorf en 1887 et qui se termine par le vœu que les descendants des fondateurs gardent les coutumes des ancêtres et parlent encore la langue des ancêtres en 1987. C'est fini. Les deux guerres mondiales ont été des coups très durs. La première guerre mondiale. Mais j'ai encore vu, elle n'y est plus maintenant, mais j'ai encore vu il y a quelques années dans le cimetière de Friedrichsdorf une pierre tombale qui portait une épitaphe en français. Un soldat qui s'appelait Paul Garnier, si je me souviens bien, mort pour la patrie. C'était en 1917 et c'était dans un village de l'Aisne. Et tout ça en français, mais la patrie, c'était Allemagne, bien sûr. Et à l'heure actuelle, il y a encore quelques personnes âgées, nées tout à fait à la fin du siècle dernier ou au début de ce siècle, qui ont appris le français chez eux ou au jardin d'enfants. Car le jardin d'enfants, jusqu'en 1914, était encore entièrement francophone. Et je les ai vus il y a encore 2 ans et demi. C'était absolument extraordinaire de voir cette vieille dame et ces 3 vieux messieurs qui chantaient au clair de la lune et j'ai du bon tabac et qui parlaient, enfin la dame l'avait un peu oublié, mais les vieux messieurs le parlaient encore fort bien. Et ça, vous voyez, ça a été toujours... ils ont été vraiment de très loyaux sujets là où ils ont été accueillis comme ils l'avaient été en France. Je disais tout à l'heure, les deux dernières guerres ont été les coups évidemment les plus durs. C'est quand même Napoléon qui avait commencé. Il y a eu une réaction là, très anti-française, au moment de l'invasion des troupes napoléoniennes. On connaît bien l'exemple du père de l'écrivain Fontane, et je ne prononcerai pas Fontane, car lui-même ne voulait pas qu'on le prononce à l'allemande. Fontane, qui était descendant de Huguenot, et qui raconte que, non pas son père, parce que ça devait être son grand-père, quand Napoléon a envahi l'Allemagne, il est rentré chez lui, il a dit « À partir d'aujourd'hui, nous ne parlerons plus français. » Oui. Oui. Mais les deux guerres, et la dernière en particulier, avec tous les bouleversements qu'elle a entraînés en Allemagne. Et ça ne veut pas dire pour autant que cette assimilation a entraîné une perte de l'ancienne identité. Parce que, comme je vous disais, les descendants de Huguenots en Allemagne en particulier sont très fiers de leur origine, mais en même temps, ils cultivent les traditions familiales. Et ça, c'est une chose tout à fait étonnante, à tel point d'ailleurs qu'il existe des associations familiales qui regroupent les descendants de telle ou telle famille. Il y a par exemple l'association des Martins. Les Martins. Oui, mais alors ces Martins-là viennent du Dauphiné. Et c'est... Ah, ouais. Il y avait un pasteur célèbre nommé Martin, mais maintenant ils sont plusieurs centaines. Ils se retrouvent tous les deux ans, je crois, en Hesse. Ils ont un journal familial. Il doit y avoir aussi l'association des Vassereaux ou des Arnauds. C'est aussi des Dauphinois. Il y a des associations familiales comme ça qui sont très vivantes. Et à la fin de l'été, au début du mois de septembre, il y a eu dans le Haut-Kerra une grande manifestation qui s'appelait Retour en Kerra, qui n'était pas uniquement d'ailleurs pour les descendants de Huguenots, mais pour les Kerassins qui au siècle dernier partaient, et au début de ce siècle partaient en Amérique du Sud. Et il y a eu énormément de descendants de Kerassins du XVIIe siècle qui sont venus voir les cousins.
Alors comment s'est comportée la communauté protestante quand il y a eu la guerre de 40?
On ne peut pas dire la communauté protestante parce que ce sont des communautés. Oui. Oh, ça a été très variable. Vous avez tout. De même que dans la population allemande de souche, vous aviez toutes les réactions, vous avez eu la même chose. Vous avez eu des nazis, vous avez eu des antinazis, vous avez eu des gens qui n'étaient ni l'un ni l'autre, qui survivaient comme ils pouvaient. Vous avez tout eu. J'en ai eu encore un exemple il y a très peu de temps. Un monsieur qui avait eu mon nom, je ne sais comment, m'a écrit une lettre qui m'a beaucoup touchée. C'est un protestant français, mais qui fait des recherches sur ses ancêtres, et qui a vu donc qu'une branche de la famille était partie au refuge, et qui a découvert qu'un des descendants de cette branche avait été pendant la dernière guerre commandant d'un des grands camps de concentration. Et le pauvre, il était horrifié par cette découverte, mais horrifié. L'appellation refuge vient déjà du XVIe siècle et désigne à la fois le groupe de population et le pays dans lequel il s'est réfugié. Quand on dit le refuge anglais, ça signifie les réformés français qui se sont réfugiés en Angleterre. Le refuge allemand, ceux qui sont réfugiés en Allemagne. C'est à la fois le lieu et la population. Pas trop fatigué. Si. Je vous ai dit tout à l'heure que nous travaillions en équipe internationale, merci beaucoup. Et avec les Allemands, il y avait un projet de livre. Donc nous avons fait un livre collectif dans lequel il y a surtout des auteurs allemands et français, mais il y a en même temps une présentation du refuge suisse, du refuge néerlandais et un chapitre sur l'Angleterre. C'est un livre collectif, donc avec les avantages et les inconvénients que ça peut présenter. Les avantages parce qu'on peut lire ça par petits bouts. Les inconvénients parce qu'évidemment, ça n'est pas synthétique et que quelquefois ça part un peu dans tous les sens, mais comme le refuge aussi d'ailleurs. Et ce livre a vu le jour cette année, anniversaire de la révocation. Et apparu, ça c'est je crois une grande première, apparu en même temps en allemand en Allemagne et en France en français. Alors ça, on m'a dit que c'était une grande première, en tout cas en histoire, en sérieux. Oui. Ah oui, oui. Il y a une très belle exposition aux Archives nationales qui a été faite par le conservateur responsable des expositions, qui a fait un travail remarquable parce que c'est un sujet austère. Et que j'ai vu pas mal d'expositions sur le sujet cette année, que souvent c'était uniquement des papiers, alors que là, elle est attrayante. Il y a des tableaux, il y a des objets variés, il a bien choisi les thèmes, il les a illustrés bien sûr avec des textes, mais pas uniquement avec des textes. Et les textes explicatifs eux-mêmes sont très courts, alors que dans certaines expositions, les textes explicatifs étaient trois fois plus longs que les textes originaux, et que c'était, par exemple, il y avait une très intéressante exposition au Centre culturel de RDA, boulevard Saint-Germain, très intéressante, avec des documents qui venaient de Berlin-Est, et je crois, et de Merseburg, et de Leipzig, etc., mais qui était un peu difficile, parce que c'était presque uniquement du texte, soit explicatif, soit original. Alors que celle des archives qui dure jusqu'au 6 janvier, est vraiment, elle n'est pas très grande, et il y a un audiovisuel qui est très bien fait aussi. Et on peut interroger notre banque de données, oui, en partie. Oui, on a fait un extrait de la base de données qu'on est en train de faire, et elle est interrogeable. C'est-à-dire que les gens qui sont descendants de protestants, ou qui savent qu'ils avaient de la famille partie au refuge, peuvent interroger en donnant le nom et la province d'origine. Alors, si vous avez un ancêtre nommé Pastre et venant du Dauphiné, vous allez voir défiler des Pastres, ou des Baridons, ou des Martins. Mais il faut connaître aussi la province, et nous nous sommes aperçus d'ailleurs à cette occasion que très peu de gens savaient encore de quelle province venaient leurs ancêtres. Eh bien, on s'est aperçu, il y a des gens qui arrivent et qui disent « Ah oui, je sais que j'ai un ancêtre protestant qui s'appelait comme ça. Mais d'où venait-il ? Oh ben, je ne sais pas. » Donc, la tradition familiale est restée, mais à part ça, on ne sait plus.
Sur ces registres, tous les immigrés n'étaient pas présents.
Non, non.
N'étaient présents que le prolétariat.
Non, on ne peut pas dire prolétariat. Ne sont présents sur ces registres que ceux qu'il faut aider. Mais parmi ceux qu'il faut aider, on trouve aussi bien des membres de la noblesse, des notables, parce qu'ils sont partis, ils n'ont plus rien. Ou le peu qu'ils ont pu emporter, ils l'ont dépensé en route. Il faut payer des guides, il faut se nourrir, il faut se loger. Il faut payer les passeurs, et quand ils arrivent, ils n'ont plus rien.
Il y a quand même des gens qui ont dû...
Partir avec de l'argent. Ah oui, oui, tout à fait.
Alors, ceux-là, vous ne les touchez pas.
Non, ceux-là, je ne les touche pas par ce moyen-là, par d'autres moyens, mais pas par ces listes. Mais c'est une... Oui. Et puis alors, on a d'autres documents. On a des documents de police.
Il y en a qui sont allés aux États-Unis.
Ah oui, il y en a qui sont allés aux États-Unis. Ah, oui. Oh, plusieurs colonies. À commencer par New Rochelle, et bien en Caroline en particulier, oui. Oh, pas un nombre considérable, mais il y a plusieurs communautés qui sont établies, oui.
En Californie ?
Non, en Caroline, et puis dans l'État de New York actuel, enfin New Rochelle a été fondée par les Pentecôtistes. En Afrique du Sud aussi, dès le début, seulement alors en Afrique du Sud, ils ont dû s'assimiler très vite. On avait peur qu'ils forment un groupe à part, donc ils n'avaient pas le droit de parler français, pas le droit de célébrer le culte en français, pas d'école française, etc. Ils ont gardé les noms, bien sûr, mais très vite, ils sont passés aux Néerlandais. Là.
Mais ce sont ceux qui sont partis avec les Néerlandais.
C'est ça. De même que dans les Antilles, il y en avait qui étaient déportés dans les Antilles françaises. Alors, ceux qui arrivaient à survivre au voyage, qui étaient toujours dans des conditions effroyables, bon, étaient en résidence surveillée. Beaucoup arrivaient à se sauver et à se réfugier dans les Antilles anglaises.
Et est-ce qu'on a observé des mouvements globaux, si on veut dire des mouvements généraux, de réintégration?
De retour.
De retour
Il y a eu des mouvements de retour, merci. Pas globaux, non. Il y a eu des mouvements de retour. Il y en a eu d'ailleurs très vite. Ceux qui avaient tout abandonné et au bout de quelques années se rendant compte que la situation ne s'améliorait pas, mais que les cousins arrivaient à survivre, sont rentrés. Il y a un certain nombre. On les connaît encore très fragmentairement, parce que d'abord, ils n'allaient pas s'afficher, n'est-ce pas ? Donc c'est très difficile de les repérer. Souvent, on les repère par les archives notariales, mais les archives notariales, c'est un monde. Alors ça, c'est vraiment précieux de travailler avec des érudits locaux parce que eux plongent dans ce genre de documents. Et ça, c'est un travail qui, encore une fois, on en connaît, on sait qu'il y en a qui sont venus, mais ce n'est pas un mouvement global. Il y a quelquefois des enquêtes qui ont été faites sur l'ordre de l'intendant. Par exemple, en 1698, l'intendant du Dauphiné a fait faire une enquête pour savoir qui parmi les nouveaux... Bon, ceux qui étaient partis tout à fait au début, on en avait fait son deuil, mais parmi les nouveaux convertis, qui étaient partis jusqu'en 94 et qui en 98 étaient rentrés ou pas. Alors on passe en revue toutes les communautés du Dauphiné qui avaient beaucoup ou peu de protestants. On nomme les gens partis jusqu'en 94, nouveaux convertis, n'est-ce pas, partis jusqu'en 94. Puis il y a une colonne spéciale pour ceux qui sont rentrés. C'est vraiment minime. Mais on en trouve quelques-uns, dont un qui est allé jusqu'en Hollande, qui a épousé une Hollandaise et puis qui est revenu avec sa Hollandaise. Et vous voyez, surtout le Dauphiné. Et puis, il y en a qui, au cours des siècles, vont revenir. Et il y avait d'ailleurs une loi particulière qui avait été votée, autant que je me souvienne, par la Constituante. Oui. Et c'est la loi du retour qui donnait aux descendants de réfugiés français qui voulaient revenir en France le droit d'être citoyen à part entière sans autre formalité. Et elle a été abrogée sous De Gaulle. Parce que personne n'avait fait de demande pendant quelques années. On a dit, bon, maintenant, c'est fini. Il faut, après la dernière guerre, on ne l'appliquait qu'avec beaucoup de réticence parce qu'on se demandait s'il n'y avait pas des nazis qui en profitaient. Et puis bon, comme pendant plusieurs années, personne ne l'avait invoquée, on l'a abrogée en disant, elle est tombée en désuétude, et elle était à peine abrogée depuis 2 ou 3 ans que quelqu'un est arrivé en disant, c'était trop tard pour vouloir, enfin il en a bénéficié autrement. Mais après la dernière guerre, il y a quelques Allemands qui en ont bénéficié et qui sont devenus citoyens français. Je connais deux, un qui est professeur d'allemand dans la région parisienne, et un autre qui a une histoire absolument rocambolesque, qui s'est trouvé prisonnier partout, du côté français, du côté allemand, du côté russe, et qui termine ses jours comme pasteur à la retraite à l'île aux Moines. Et il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas, bien sûr, qui n'ont pas envie d'en parler. Merci à vous.